Je vais vous dire quelques mots pour présenter Jacques Vallin, où je ne présenterai pas vraiment, d'abord parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, le connaissent, ne serait-ce que parce qu'il a publié plusieurs petits livres, en particulier sur la population mondiale, qui allie à la fois la rigueur scientifique et l'accessibilité. Mais je dirais, et d'autre part en sens inverse, parce que il est difficile de résumer en quelques mots une œuvre de 35 années. Je dirais simplement deux ou trois aspects qui me frappent dans son travail, qui, on peut dire, portent sur trois points essentiels. La mortalité, et je pense en particulier à l'ouvrage qu'il a dirigé en 1985 sur la lutte contre la mort. Les pays en développement, qui est une de ses préoccupations constantes, et enfin des grandes synthèses internationales. Et dans tous ces cas, il me semble apparaître un souci de lier les phénomènes démographiques au développement, de ne jamais séparer la dynamique des populations de la dynamique sociale, ce qui est une tâche difficile pour le démographe, lequel est porté de temps à autre par la nécessité de travailler les données, d'élaborer, de construire en somme son objet, à se rétrécir peut-être son champ, ce que justement Jacques Vallin a su constamment éviter en ayant toujours présent l'intérêt pour le développement et pour la société dans laquelle se passe ce phénomène démographique et ces phénomènes démographiques qui sous-tendent l'évolution sociale et en même temps y réagissent. Voilà, je n'en dirai pas plus et il va reprendre, je dirais, simplement un peu de ces thèmes en parlant de l'évolution à long terme de la population mondiale. On a souvent, et jusqu'à une date récente, évoqué la crainte d'une explosion démographique, en particulier dans les pays en développement, bien évidemment. Maintenant, on tend à craindre, au contraire, la rapidité avec laquelle se passe ce qu'on appelle la transition démographique et la baisse de la fécondité, y compris dans ces pays en développement. Jacques Vallin va nous montrer que la transition démographique qui est en cours, mais en fait pratiquement acquise, même si elle est loin d'être achevée, n'est pas la fin, n'est pas la fin, peut-être pas la fin de l'humanité, mais même la fin de la démographie, et que ça peut nous réserver bien des surprises. Alors je lui laisse la parole pour 50 minutes.
Merci. Rappelez-vous, 1870, la France impériale, écrasée par la Prusse, perd l'Alsace-Lorraine et se laisse envahir par la peur du déclin. Assez vite, le coupable va être identifié, la dépopulation. Chacun peut en effet constater que tout au long du 19e siècle, alors que la croissance démographique avait donné aux pays voisins un dynamisme sans précédent, la France, pays le plus peuplé d'Europe sous la Révolution, avait vu sa population stagner. Pour exorciser cette peur, Jacques Bertillon et d'autres créèrent en 1896 l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française. Rebaptisée en 1936, après la terrible hémorragie de 14-18 et 40 ans d'impuissance à faire remonter une fécondité toujours en baisse, Alliance nationale contre la dépopulation. Ainsi, à la veille du second conflit mondial, dans le trouble des idéaux nationalistes, le pessimisme l'avait emporté sur la volonté de réagir. Et je crois qu'aujourd'hui encore, malgré le baby-boom des années 40 et 70, on peut déceler les traces de cette grande peur de la dépopulation et ses attaches nationalistes revigorées par une certaine phobie de l'immigration. Autre temps, autre peur, à la fin des années 50, alors même que les pays industriels étaient en plein baby-boom, les opinions publiques occidentales furent mises sous la pression d'une toute autre menace, celle de l'explosion démographique du tiers-monde. La première projection de population mondiale, publiée par les Nations Unies, fait littéralement l'effet d'une bombe. Nous serons 6 milliards en l'an 2000. 6 milliards d'insectes, titrait Fabrelus, comme si la comparaison avec une fourmilière permettait de faire encore plus peur. Une nouvelle frayeur était née, celle de la surpopulation. L'accroissement démographique des pays du Sud était devenu, au-delà des réels problèmes qu'il posait, un objet de fantasme xénophobe, d'autant plus aisément qu'il était injustement attribué à un excès de procréation. « Le lit de la misère est fécond », disait Josué de Castro. En fait, il a fait le lit du cartiérisme, mais aussi celui du culte de la croissance zéro, et aussi de certains errements, de certains écologistes n'hésitant pas à affirmer que les hommes seraient beaucoup plus heureux sur la Terre s'ils n'étaient que quelques centaines de millions. Crainte de la dépopulation, phobie de la surpopulation, deux frayeurs qui semblent contradictoires, même si toutes deux ont partie liée avec l'idéologie nationaliste. Frayeurs qui s'appuient sur des événements, eux, bien réels, et qui semblent tout aussi parfaitement contradictoires. Deux situations qui paraissent aux antipodes l'une de l'autre. Et pourtant, toutes deux participent d'un seul et même processus historique. Et c'est ce processus, d'abord décrit par le français Adolphe Landry dans les années 30 sous l'expression « révolution démographique », qui fut, après la guerre, rebaptisé « Demographic Transition » par des Américains comme Kinsley Davis, Dudley Kirk ou Frank Notenstein. Nous permettant de comprendre que l'espèce de dépression démographique dans laquelle se trouvait la France entre les deux guerres, comme la vive croissance dont ses voisins avaient bénéficié au XIXe siècle, ou encore l'explosion démographique du tiers-monde des années 60-70, comme la perte de vitesse des pays du Nord dans ce deuxième quart du XXe siècle, résultait d'un seul et même phénomène, la modernisation des comportements démographiques, le paradigme de la transition, nous permet ainsi de relativiser les frayeurs du passé en nous autorisant à faire des hypothèses réalistes et finalement rassurantes sur les perspectives d'évolution à moyen terme de la population mondiale. Il a permis tout à la fois de modérer le catastrophisme ambiant des années 60 et de souligner la gravité des enjeux réels de l'accomplissement de ce processus historique. Les projections des Nations Unies de population mondiale prévoient en effet désormais une stabilisation générale de la population à l'horizon de la fin du XXIe siècle, dont l'essentiel devrait être acquis dès 2050. Un grand soulagement, certes, au regard des malheurs que d'aucuns nous promettaient il y a peu, mais je dois dire que les sujets d'inquiétude ne manquent pas pour autant. Le défi de la transition lui-même est encore loin d'avoir été définitivement relevé, car la fin de la transition n'est encore qu'annoncée, non pas réalisé. D'autre part, la fin de la transition n'est pas la fin de ses conséquences. Enfin, c'est peut-être le plus important, la fin de la transition, c'est aussi la mort du paradigme d'explication, et nul autre paradigme n'est à l'heure actuelle disponible pour nous éclairer sur l'avenir. Avant de réfléchir à ce qui risque de se passer dans le futur, rappelons ce qui s'est passé jusqu'à présent. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ou plus exactement de 1950 à 1987, la population mondiale a doublé, passant de 2,5 milliards à 5 milliards d'habitants en moins de 40 ans. Du jamais vu. Admettons, pour en juger, la fable qui consiste à penser que tout a commencé avec Adam et Ève, et supposons que ces derniers soient nés il y a 100 000 ans, époque où certains experts situent actuellement l'apparition d'Homo sapiens. Savez-vous combien il faut de doublement pour passer de 2, une population de 2, Adam et Ève, à 5 milliards ? À peine 31. Alors si le dernier doublement a demandé moins de 40 ans, les 30 premiers en ont demandé en moyenne 3 000 chacun. 3000 ans, le temps de voir naître, grandir, mourir une grande civilisation comme la civilisation égyptienne, par exemple. Alors que les enfants nés en 1950 ont tout juste eu le temps de devenir des hommes et des femmes avant que ne double la population du monde dans lequel ils sont nés. C'est dire l'extraordinaire bouleversement que constitue dans l'histoire des hommes la transition démographique. En réalité, c'est au milieu du XVIIIe siècle que tout a basculé. Jusqu'alors, avec bien sûr de grandes variétés de situations, d'importants aléas historiques, toutes les populations du monde avaient été soumises durant des millénaires à un régime démographique plutôt cruel, où une forte fécondité était nécessaire pour contrebalancer une mortalité effroyable. Un enfant sur trois seulement passait le cap de la première année de vie, et guère plus de la moitié survivait à 5 ans. L'espérance de vie dépassait rarement 25 ans. Il fallait alors 6-7 enfants par femme en moyenne pour assurer un strict remplacement des générations. Résultat que tout un corpus de règles sur le mariage, la famille, le statut des femmes, ainsi que de préceptes moraux, religieux sur la sexualité ou la procréation, se chargeaient en général de garantir. Ce fragile équilibre entre mortalité et fécondité étant souvent remis en cause à l'occasion de crises, épidémies, guerres, famines, parfois très violentes, certaines populations ont pu disparaître, tandis que d'autres progressaient un peu plus rapidement. Mais au total, et sur le long terme, on n'a jamais observé qu'un accroissement extrêmement lent, régulièrement plafonné par les conditions de subsistance. Quand la conquête de nouveaux espaces ou la découverte de nouvelles techniques permettait d'accroître la quantité de nourriture disponible, la population pouvait s'accroître jusqu'à atteindre un nouveau plafond de densité rendu ainsi possible. Mais que celui-ci vienne à être dépassé, et la crise sous une forme ou sous une autre, était inévitable. C'est ainsi, par exemple, qu'au néolithique, la découverte de l'agriculture et de l'élevage a singulièrement rehaussé le plafond, ouvrant la voie même à un millénaire de croissance exceptionnelle. En 1000 ans, de la fin du 5e millénaire au 4e millénaire avant Jésus-Christ, la population du monde a probablement été multipliée par 10, passant peut-être de 15 à 150 millions. Mais sans rien changer au principe antérieur. Une fois l'essentiel des terres mises en culture, les 4 millénaires qui ont suivi ont à nouveau été marqués par un accroissement extrêmement lent, entrecoupé de graves crises de surmortalité jusque vers le milieu du XVIIIe siècle. S'ouvre alors une ère de grands changements, une véritable révolution, comme l'a écrit Adolphe Landry. Une révolution qui s'est développée en deux temps, atteignant d'abord l'Europe avant de gagner le reste du monde. En Europe, en effet, au XVIIIe siècle, la révolution industrielle, la transformation sociale et culturelle qui l'accompagne, modifie radicalement les conditions de l'accroissement démographique. Les progrès de la médecine et de l'hygiène, mais aussi et même surtout, dans un premier temps, le développement économique et l'amélioration de l'alimentation, induisent une baisse profonde et durable de la mortalité, tandis que l'évolution de la famille et des mœurs entraîne la fécondité sur la même voie. Amorcé en Europe du Nord-Ouest, le mouvement gagne rapidement tous les pays européens, et en deux siècles, on passe d'une situation où il fallait 6 à 7 enfants par femme pour assurer le renouvellement des générations à une donne entièrement nouvelle, où il en suffit d'à peine plus de 2, puisque presque tous les enfants survivent jusqu'à l'âge de la procréation. Mais dans ce passage d'un régime ancien, où une forte fécondité équilibrait une forte mortalité, à un régime nouveau, également équilibré, mais à des niveaux de fécondité et de mortalité beaucoup plus bas, c'est le décalage entre la baisse de la mortalité et celle de la fécondité qui bouleverse pour un temps les conditions de la croissance démographique. Côté mortalité, l'homme a toujours lutté pour la survie et cherché par tous les moyens à écarter la maladie et reculer la mort. Hélas, sans grand succès pendant des millénaires. Mais quand à partir du XVIIIe siècle, il commence enfin à se doter de moyens efficaces dans ce domaine, ceux-ci produisent immédiatement effet et la mortalité recule. Au contraire, Du côté de la fécondité, alors que pour assurer leur survie, toutes les sociétés ont ancré, d'une manière ou d'une autre, dans les mœurs, dans les mentalités, un culte de la fécondité, le jour où, avec la baisse de la mortalité, il devient peut-être préférable de faire moins d'enfants, cela ne suffit pas à entraîner une baisse de la fécondité. Encore faut-il que les couples prennent conscience de la situation nouvelle et osent transgresser les règles sociales, morales ou même religieuses pour décider de maîtriser leur fécondité. Beaucoup plus que de progrès technologiques ou de la découverte d'une arme absolue, qui d'ailleurs viendra beaucoup plus tard avec le stérilet et la pilule, la contraception est alors redevable de cette mutation culturelle fondamentale qui ne peut se produire qu'après un temps de latence, d'où le délai entre la baisse de la mortalité et celle de la fécondité. Variable d'un pays à l'autre, certes, mais assez important pour dégager la plupart du temps des accroissements de population sans précédent. L'expansion néolithique, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, aussi importante qu'elle ait été en son temps, ne s'était produite qu'à des rythmes extrêmement lents, de l'ordre de 0,2% par an. Au XIXe siècle et au début du XXe, les populations européennes ont progressé à des rythmes de l'ordre de 1 à 1,5% par an, soit 5 à 7 fois plus vite. C'est aussi l'époque où, grâce à son commerce et à ses canons, bien sûr, mais aussi grâce à ce dynamisme démographique exceptionnel, que l'Europe a envahi et dominé le reste du monde. Mais ce faisant, elle déclenche aussi, dans le reste du monde, un processus conduisant pour la troisième fois à des rythmes d'accroissement sans précédent. Passé la phase dévastatrice, hélas, de la colonisation particulièrement sévère pour l'Amérique précolombienne, mais également de triste mémoire pour l'Afrique noire saignée par la traite des esclaves, la domination européenne a fini par s'accompagner, dans le domaine de la santé, de progrès d'autant plus rapides qu'elle pouvait exporter des techniques ayant déjà fait leurs preuves ailleurs. Dès l'entre-deux-guerres, certains pays d'Amérique latine et d'Asie ont ainsi connu un recul important de leur mortalité. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces progrès se sont accélérés avec la mise au point de moyens simples de lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires et surtout le lancement de programmes concertés, notamment dans le cadre de l'OMS. Des pays comme le Sri Lanka, le Mexique, ont gagné en une ou deux décennies autant d'années d'espérance de vie que la Suède en 150 ans. Et là aussi, la baisse de la mortalité n'étant pas suivie immédiatement d'une baisse de la fécondité, a créé les conditions d'une forte croissance démographique, mais beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide cette fois-ci que celle de l'Europe, dans la mesure où la mortalité elle-même a baissé beaucoup plus rapidement. Dans beaucoup de pays, le taux d'accroissement a pu dépasser 3%, voire 4%, 2 à 3 fois plus que dans l'Europe du XIXe siècle. D'où la prévision faite à la fin des années 50 d'une population mondiale de 6 milliards d'hommes en l'an 2000. D'hommes et de femmes, excusez-moi, en l'an 2000. Et la bataille qui a fait rage dans les années 60 et 70 entre néo-malthusiens et anti-malthusiens. En réalité, qu'on le veuille ou non, le modèle de la transition démographique européenne indiquait la voie. Et qu'on mette ou non en œuvre des politiques de limitation des naissances dans les pays du Sud, la fécondité allait y baisser en réponse à la baisse de la mortalité. Et c'est bien ce qui s'est produit. Et même plus vite que beaucoup ne l'imaginaient. Partout aujourd'hui, le mouvement est en marche, y compris en Afrique subsaharienne, dont certains disaient encore il y a peu qu'elle ferait exception. Et finalement, depuis le début des années 80, les Nations Unies prévoient une stabilisation générale de la population mondiale qui nous mènerait probablement à environ 9,5 milliards d'hommes et de femmes en 2050 et peut-être 10 ou 11 milliards d'ici la fin du deuxième siècle, fin de la transition. Immense soulagement, évidemment, par rapport à ce qui avait pu être dit. Mais faut-il pour autant crier victoire ? Autant il me paraît juste de dénoncer les exagérations de ceux qui, hier, forçaient le trait pour mieux stigmatiser l'irresponsable prolifération des pays du Sud ou favoriser tout simplement la mise en œuvre de politiques de limitation des naissances, autant il me semble nécessaire aujourd'hui de ne pas oublier que si la fin annoncée de la transition démographique est bien la preuve de l'inanité de certaines frayeurs passées, nombre de problèmes cruciaux attendent toujours leur solution. Avec 6 milliards d'hommes et de femmes en l'an 2000, on pourrait penser le plus dur est fait. On est passé de 2,5 milliards à 6 milliards en 50 ans. Il reste à passer de 6 milliards à 9,5 milliards en 50 ans encore. Derrière nous, une augmentation donc de 3,5 milliards, mais qui rapportait à 2,5 milliards faisait un accroissement de 140%. Devant nous, également 3,5 milliards, mais rapporté à 6 milliards, ça ne fait plus que 60%. Certes, néanmoins, deux points noirs s'inscrivent au tableau. D'une part, le résultat acquis aujourd'hui n'est guère brillant. 20% de la population du monde dispose de 80% des revenus de la planète, tandis que l'immense majorité se partage le reste, autant dire les miettes. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, d'autant moins que le partage de ces miettes est lui-même très inégal. De plus en plus, on doit distinguer parmi les pays pauvres des pays réellement en développement et des pays très pauvres dont les économies extrêmement fragiles sont au bord de l'effondrement. Mais surtout, des 3,5 milliards d'hommes supplémentaires des dernières 50 années, une part non négligeable avait été directement assumée par les pays du Nord, encore en forte expansion démographique, comme l'Amérique du Nord ou l'ex-URSS, par exemple, tandis que l'essentiel du Sud était assumé par des pays ou des régions dynamiques, comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Amérique latine. Au contraire, avec les 3,5 milliards à venir, ce sont presque entièrement 3 milliards à la charge des pays ou régions actuellement les plus pauvres de la planète. Afrique subsaharienne surtout, plus quelques pays d'Asie, comme la Birmanie, le Bangladesh, une partie de l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Et si on rapporte cette nouvelle augmentation à l'effectif actuel de ces régions, moins de 2 milliards, c'est d'une croissance de 200% qu'il s'agit. Or, non seulement ces pays sont les plus pauvres, mais contrairement à l'essentiel de l'Asie ou de l'Amérique latine qui ont pu assumer leur forte croissance démographique des dernières décennies durant les 30 glorieuses, eh bien, les pays les plus pauvres aujourd'hui doivent le faire dans un environnement économique international défavorable. Pour vous reposer un petit peu, je vais très rapidement vous montrer un résumé de cette situation en faisant défiler devant vos yeux trois cartes qui représentent les régions du monde proportionnellement à leur population. Voilà la situation en 1950, voilà la situation aujourd'hui, disons. Vous voyez, donc dans le premier temps, c'est le nord et l'extrême est de l'Asie qui a grossi, et dans un deuxième temps, d'ici 2050, eh bien, ça va être essentiellement l'Afrique et le sud de l'Asie. Nous avons certes de bonnes raisons de jeter aux orties les craintes que nous n'aurions d'ailleurs jamais dû avoir hier, mais nous n'en avons que plus de nous soucier enfin, de manière sérieuse, de ce que, malgré nos bonnes paroles, nous n'avons cessé de remettre à plus tard, à savoir le développement économique et social des régions les plus pauvres de la planète. L'urgence de cette tâche reste d'une brûlante actualité, tout comme la recherche de méthodes de développement respectueuses de l'environnement et des grands équilibres écologiques de la planète. On l'aura compris, la fin de la transition démographique n'est qu'annoncée, elle reste encore loin d'être assumée. Et ce, d'autant plus que la fin de la transition n'est pas la fin de ses conséquences. Disons plus précisément que la fin de la transition peut s'entendre de différentes façons. On pourrait par exemple imaginer que la fin de la transition soit le moment où la fécondité mondiale rejoindrait le niveau fatidique de 2,1 enfants par femme, strictement nécessaire au remplacement des générations, et s'y stabilise. Si tel était le cas, nous en serions tout proches. Nombre de pays en développement, de la Chine à Cuba, en passant par le Kerala ou la Tunisie, y sont déjà. Et la plupart des autres y arriveront probablement d'ici une trentaine d'années, voire une dizaine, selon les prévisions faites par les Nations Unies. Cela ne signifie pas du tout la fin immédiate de leur croissance démographique rapide. En effet, la croissance d'une population ne dépend pas seulement, à un moment donné, des niveaux de fécondité et de mortalité, mais aussi de la forme de sa pyramide des âges. Et il n'y a là aucun mystère. D'une part, le risque de mourir dans l'année est beaucoup plus grand si vous êtes vieux que si vous êtes jeune. Et donc, à espérance de vie égale, le nombre de décès observés au cours d'une année sera d'autant plus faible que la population sera jeune. D'autre part, on ne peut évidemment pas enfanter à tout âge. Et à fécondité égale, plus la proportion de femmes en âge de procréer sera grande, plus le nombre de naissances sera élevé. Finalement, toute chose égale par ailleurs, plus une population est jeune, plus elle dispose d'un potentiel d'accroissement élevé. Imaginons que, dès demain, toutes les Africaines règlent leur fécondité sur le strict minimum nécessaire à la reproduction des générations. Eh bien, la population du continent augmenterait encore de 60% avant de se stabiliser. Et même la Chine, déjà arrivée au seuil fatidique des 2,1 enfants par femme, verrait encore sa population augmenter de 20% si elle maintenait ce niveau de fécondité. On associe plus souvent donc la fin de la transition au moment où le taux d'accroissement de la population devient quasiment nul, permettant à l'effectif global de se stabiliser. C'est ce qu'implicitement j'ai fait jusqu'à présent, et c'est bien naturel si on garde les yeux rivés sur les problèmes posés par la croissance démographique rapide. C'est pourtant théoriquement faux et pratiquement imprudent. En effet, la transition n'est pas seulement le passage d'un régime de mortalité et de fécondité à un autre, c'est aussi la transformation de la pyramide des âges. Tout comme la structure par âge détermine le rythme d'accroissement pouvant résulter d'une mortalité et d'une fécondité donnée, les évolutions de ces dernières sont à la longue de puissants facteurs de transformation de la composition de la population. Côté fécondité, c'est facile à comprendre. Si les femmes ont moins d'enfants chaque année, la base de la pyramide va se rétrécir un peu plus et peu à peu, la proportion de jeunes diminuera, tandis que celle des adultes, puis finalement, à la longue, celle des personnes âgées, augmentera. C'est ce qu'on appelle le vieillissement de la population par le bas. Côté mortalité, les choses sont un peu plus subtiles. Dans un premier temps, et c'est ce qui se passe au premier stade de la transition, l'espérance de vie augmente essentiellement grâce à la baisse de la mortalité infantile. L'effet est alors rajeunissant. Moins d'enfants meurent et cela tend à gonfler les effectifs du bas de la pyramide. Ce phénomène se poursuit tant que la mortalité infantile est assez forte pour que son évolution pèse sur celle de l'espérance de vie. Et c'est ainsi qu'au début de la seconde phase de la transition, lorsque la fécondité commence à baisser, la baisse de la mortalité aura tendance à freiner le vieillissement de la population par le bas. Mais passé un certain cap, la mortalité infantile devient si basse que ce phénomène finit par s'estomper. En revanche, des progrès de plus en plus nets sont faits aux grands âges et le recul de la mortalité tend alors à renforcer les effectifs de la population âgée, provoquant directement un vieillissement de la population par le haut. Ce double processus de vieillissement est non seulement loin de s'achever au moment où la fécondité et la mortalité se figeraient au niveau propre à assurer le strict remplacement des générations, mais il perdure en général bien après celui où l'effet global de la population lui-même, l'effectif global de la population lui-même se stabilise. Autrement dit, même dans cette seconde acception de la fin de la transition, cette soi-disant fin n'est nullement la fin des conséquences à en attendre. Et on connaît bien cette question dans les pays européens où la transition est ancienne. Si l'on fait abstraction du baby-boom, qui au regard de ce grand processus historique fait de plus en plus figure d'accident de parcours, c'est pratiquement dans les années 30 et 40 que l'on peut situer la fin de la transition, au sens courant du terme, le moment où les effectifs de population se stabilisent. Pourtant, ces pays n'ont pas fini d'en finir avec le vieillissement démographique. On a beau avoir eu le temps de s'y préparer, on a beau savoir qu'il faudrait prendre des mesures fortes pour adapter nos économies, nos régimes sociaux, nos mœurs même, on a beau savoir que certaines de ces mesures devraient être prises sans tarder, si on veut éviter d'avoir à les prendre dans la douleur un peu plus tard, eh bien on ne cesse d'attendre qu'il soit trop tard. Pourtant, ce que nous vivons dans nos pays du Nord est vraiment peu de choses à côté de ce qui se passera dans les pays du Sud. Si les rythmes de croissance du Sud ont atteint des sommets, comme on sait, dans les années 70, c'est bien parce que la baisse de la mortalité y a été beaucoup plus rapide que dans les pays européens. Mais si la période de croissance exceptionnelle a pu fort heureusement y être beaucoup plus courte, c'est parce que la baisse de la fécondité y a été elle-même beaucoup plus rapide. En France, par exemple, premier pays au monde à avoir utilisé de manière massive la contraception dès 1750. Eh bien, de 1750 à 1930, il a fallu près de 200 ans pour passer de 6 enfants par femme à un peu plus de 2. En Chine, de 1960 à 1990, il n'a fallu que 30 ans pour accomplir le même changement. Certes, tous les pays du Sud n'ont pas évolué aussi rapidement, ni du côté de la mortalité, ni de celui de la fécondité, mais partout, partout, le changement a été beaucoup plus rapide qu'en Europe. Et tout comme en cette seconde moitié du XXe siècle, l'explosion démographique du tiers-monde fait écho à l'expansion européenne du XIXe, au vieillissement en douceur des populations du Nord va correspondre au XXIe siècle un vieillissement accéléré des populations du Sud. Non seulement le vieillissement par le bas sera plus rapide, mais le vieillissement par le haut va s'y ajouter plus tôt. Un exemple, je vais d'ailleurs vous le mettre. Sur 1,3 milliard de Chinois, actuellement, 130 millions ont plus de 60 ans, soit 10%. 10%, c'est cette proportion qui prévalait en France en 1850, il y a 150 ans. C'est-à-dire, c'est dire plutôt si la population chinoise est encore jeune au moment où il semble qu'elle a pratiquement accompli sa transition démographique. Mais cela ne saurait durer. En effet, ce à quoi la France a eu 150 ans pour s'adapter, c'est-à-dire le passage de ses 10% de 1850 à ses 20% actuels, la Chine devra l'assumer, d'après les projections des Nations Unies, en moins de 25 ans. C'est vers 2025 que, si la fécondité restait à 2,1 enfants par femme, la population chinoise devrait à son tour compter 20% de 60 ans et plus. Il est vrai qu'en France, il y a eu le baby-boom qui a retardé l'échéance, mais ce n'est pas ça qui fait l'essentiel. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, ni pour la France, ni pour la Chine, car, on l'a vu, à ce stade, le vieillissement par le haut, dû à la baisse de la mortalité au grand âge, vient s'ajouter aux effets de la baisse de la fécondité. Et même si la fécondité se maintenait en France et en Chine à 2,1 enfants par femme, le cap des 30% de plus de 60 ans serait atteint dans les deux cas en 2050. Dans les deux cas, l'accélération du processus est frappante. Mais là encore, la Chine aura moins de temps pour s'y faire que la France, puisqu'elle devra faire en 25 ans, de 2025 à 2050, ce que la France a 50 ans pour faire. Et le réveil de la Chine sera d'autant plus dur si elle n'y prend garde que ce pays dispose actuellement de la pyramide des âges la plus avantageuse qui soit pour la gestion économique. Au début, en effet, le vieillissement par le bas de la pyramide tend à réduire la proportion des enfants et des jeunes, sans avoir là encore le temps, parce que les choses sont très rapides, de majorer celle des vieux. On entre alors dans une sorte d'âge d'or démographique où la proportion des personnes en âge d'activité passe par un maximum. C'est le stade auquel se trouve la Chine actuellement, ou presque, alors que dans les années 50, la moitié de la population chinoise avait entre 15 et 60 ans. Cette proportion approche aujourd'hui de 65% et devrait même friser les 70% en 2010, avant de retomber brutalement dans les décennies suivantes. Ce phénomène n'est certainement pas sans rapport avec les succès économiques remportés par la Chine au cours des dernières décennies. Le miracle n'en est peut-être pas tout à fait un. Et ce n'est pas non plus un hasard si ce sont les pays du Sud qui sont peu ou prou à ce stade de leur transition démographique qui bénéficient aujourd'hui des performances économiques les plus brillantes, pays d'Extrême-Orient ou d'Asie du Sud-Est notamment. Dans tous ces pays, la fécondité est en baisse rapide au moins depuis la fin des années 60 et la population d'âge actif y est à son zénith ou presque. Mais cette situation favorable ne sera que de très courte durée Tous ces pays seront, comme la Chine, frappés de plein fouet par un vieillissement très rapide de leur population dès le deuxième quart du XXIe siècle. Jusqu'où ira ce vieillissement ? Si, une fois atteint le seuil où fécondité et mortalité se répondent à nouveau pour assurer un strict remplacement des générations, les choses restaient en l'état, il serait facile de répondre à la question. La théorie des populations stables nous enseigne en effet que, quelle que soit la structure de départ, dans ces conditions, toute population tend vers une population stationnaire où tous les paramètres sont constants et où la répartition par âge est entièrement déterminée par la courbe de survie. Ainsi, avec 85 ans d'espérance de vie et 2,1 enfants par femme, on aurait inévitablement, à terme, 24%, c'est-à-dire un peu moins du quart, d'enfants de moins de 20 ans, 46%, un peu moins de la moitié, d'actifs de 20 à 59 ans, enfin d'actifs, de gens en âge d'activité, hein, et 30% de plus de 60 ans. Situation dans laquelle, effectivement, la Chine ou la France se trouveront pratiquement dès le milieu du siècle prochain, et vers laquelle, si telle était bien la fin de la transition, toutes les populations du monde finiraient par converger plus ou moins vite ensuite. Au fond, rien de vraiment dramatique, si toutefois on s'y prépare assez vite. Mais s'il est à peu près sûr que toutes les populations connaîtront peu ou prou ce type de situation dans les prochaines décennies ou les suivantes, rien ne garantit qu'une telle situation soit stable, bien au contraire. Car ce qui semble plus probable, c'est que la fin du grand processus historique que nous avons appelé transition démographique soit aussi la mort du paradigme du même nom. À peine ce beau modèle permettait-il aux Nations Unies d'oser enfin se livrer au début des années 80 à une splendide simulation de stabilisation générale de la population mondiale, que déjà ce modèle craquait de toutes parts. Non pas tant parce qu'il n'avait prévu ni la flambée du sida en Afrique, ni par exemple la crise sanitaire que traversent les pays de l'Est européen. Après tout, il ne s'agit là que d'avatars qui, aussi funestes soient-ils, ne remettent pas en cause le fondement du modèle. Mais surtout parce que les preuves n'ont cessé de se multiplier que la fin de la transition ne sera certainement pas celle que l'on a pu croire. L'expérience du baby-boom de l'après-guerre aurait déjà pu nous mettre la puce à l'oreille. Mais il est vrai que la Seconde Guerre mondiale avait bousculé tant de choses qu'on pouvait penser qu'il ne s'agissait là que d'une parenthèse dans le développement d'un processus historique inéluctable. Et effectivement, il en a bien été ainsi. Mais comment a-t-on pu laisser penser qu'après la baisse de la mortalité, après celle de la fécondité, après la phase de croissance exceptionnelle due au décalage entre les deux phénomènes, après le bouleversement des structures par âge qui en résulte, on entrerait enfin dans une ère de stabilité générale? Comment a-t-on pu faire croire qu'après la tempête viendrait le calme plat éternel au simple motif que l'espérance de vie à la naissance devrait inévitablement plafonner à 85 ans et que la fécondité devrait nécessairement se stabiliser à 2,1 enfants par femme? Rien, absolument rien, n'a jamais permis d'affirmer qu'il en serait ainsi. Et au contraire, beaucoup de choses nous indiquent aujourd'hui qu'il pourrait en aller tout autrement. Hélas, je n'ai aucun nouveau paradigme, aucun modèle, aucune théorie à vous proposer pour y faire entrer non pas la fin de la transition démographique, mais la suite à en attendre. Je dois donc me contenter d'imaginer quelques scénarios possibles pour la fécondité, la mortalité et ses conséquences qu'on pourrait en attendre pour l'évolution des effectifs ou celui de la structure par âge, et je le ferai tout simplement en m'appuyant sur des faits observables aujourd'hui mais dont on ignore complètement la portée pour demain. Du côté de la fécondité, tout d'abord, deux faits nous interpellent. Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, plus parfois, dans nombre de pays du Nord, l'indicateur conjoncturel de la fécondité est nettement inférieur à 2,1 enfants par femme. Il est parfois même très en dessous de ce seuil. 1,4 en Allemagne, 1,2 en Espagne, 1,2 en Italie, et même 0,8 dans les provinces du nord de l'Italie. D'autre part, l'âge moyen auquel les femmes font leurs enfants augmente sensiblement depuis quelques décennies. Et ces deux phénomènes ne sont d'ailleurs peut-être pas sans rapport l'un avec l'autre. On pourrait en effet très raisonnablement imaginer que les femmes retardant la venue de leur première grossesse, la fécondité du moment soit tombée très bas du seul fait qu'elles combinent à un moment donné la fécondité désormais très faible de femmes déjà un peu âgées qui ont épuisé leur désir de faire des enfants et des femmes à fécondité également très faible aujourd'hui parce qu'elles ont décidé de retarder à plus tard la venue de leurs enfants. Et au total, on pourrait bien conserver comme ça une descendance finale désirée et probablement acquise à 2,1 enfants par femme, mais en passant par une phase de très basse fécondité. Mais on peut tout aussi bien imaginer que ce soit réellement la descendance finale désirée qui change. Alors, sans exagérer à l'extrême, forçons quand même un petit peu le trait dans cette double direction. Le premier scénario, le plus simple, les couples veulent réellement réduire leur descendance finale. Et supposons alors qu'ils se dirigent vers le modèle de l'enfant unique, celui que le gouvernement chinois tente actuellement d'imposer à son peuple, mais aussi peut-être celui que les Italiens du Nord voudraient bien réaliser. Deuxième scénario, les couples ne changent pas leur désir de descendance finale et font comme par hasard en sorte de le maintenir à 2,1 enfants par femme, mais ils décident de faire leurs enfants beaucoup plus tard. Et pourquoi pas, profitant des progrès futurs de la médecine qui permettraient de reculer la ménopause, décident de passer d'un âge moyen à la maternité de 30 ans à 50 ans. Imaginons. Dans les deux cas, tenons par ailleurs assuré, provisoirement, l'hypothèse faite par les Nations Unies d'un plafonnement de l'espérance de vie à 85 ans et considérons qu'il n'y a pas de migration. Qu'en résulte-t-il ? Eh bien, dans le premier cas, la population va naturellement vieillir bien au-delà de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, mais aussi décroître indéfiniment. Après une centaine d'années d'un tel régime, je vous rappelle, enfant unique, 85 ans d'espérance de vie, alors que ces structures sont devenues stables, la population ne compterait plus que 8% de jeunes de moins de 20 ans, 36% d'adultes d'âge actif, entre 20 et 59 ans, mais 56% de personnes de plus de 60 ans. On est loin des 30% de vieux auxquels conduirait la fécondité à 2,1 enfants par femme. En outre, cette population, sauf à changer de comportement, serait évidemment vouée à disparaître à terme. Au départ, elle peut se maintenir tant que l'espérance de vie augmente jusqu'à son plafond de 85 ans, mais dès que celui-ci sera atteint, elle commencera à se réduire. Et si l'on appliquait un tel scénario à la population mondiale, dans l'état où l'auraient laissé les perspectives des Nations Unies pour 2050, eh bien, 100 ans plus tard, elle se trouverait déjà divisée par 3. Et puis encore 100 ans, et il n'y aurait plus que 200 millions d'habitants sur la Terre, à peine plus qu'à la fin du Néolithique. Évidemment, dans le second scénario, nul risque à terme que la population disparaisse, et chose promise, chose due, on aboutirait à terme, à très long terme, à la répartition par âge correspondant à la courbe de survie, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, 24% de jeunes, 46% d'adultes et 30% de vieux. Mais d'ici là, le choc serait terrible. Non seulement en quelques décennies, la population perdrait la moitié de son effectif, du fait du retard des naissances, avant de pouvoir se stabiliser, bien sûr, mais surtout, la déformation infligée à la structure par âge serait telle que 3 siècles plus tard encore, on serait loin d'avoir retrouvé une structure stable. Ce serait en quelque sorte une succession incessante de baby-boom et de classe creuse. Et comme on le voit, sorti du paradigme de la transition démographique, il n'y a guère de repos à attendre. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi spéculer sur l'avenir de l'espérance de vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, il n'est guère plus assuré que celui de la fécondité. Laissons de côté l'idée qu'une guerre atomique ou qu'une épidémie encore plus féroce que ne l'est le sida pour l'Afrique puisse tout simplement faire disparaître à jamais l'humanité. Laissons même aux pessimistes l'idée que l'espérance de vie puisse reculer durablement à l'échelle de la planète, comme elle l'a fait récemment dans les pays de l'Est européen. Le jeu reste néanmoins extrêmement ouvert. Deux théories, en effet, s'affrontent aujourd'hui sur ce sujet, tant chez les biologistes que chez les démographes. Selon la première, nous sommes tout près de buter sur une limite absolue, celle de la longévité humaine. Du XVIIIe siècle à nos jours, en faisant passer l'espérance de vie de 25 ans à près de 80, bientôt 85, on n'a en réalité rien fait d'autre que de rapprocher la moyenne, l'espérance de vie, du maximum, la longévité. Seule la première était modifiable et la seconde, au contraire, était réputée irrémédiablement fixée par le potentiel de vie initial inscrit dans nos gènes. On comprend aisément que plus on se rapproche du maximum, plus il devient difficile de faire progresser la moyenne. Mais il y a plus, car compte tenu de la grande variabilité des patrimoines génétiques individuels, le maximum possible lui-même est très variable d'un individu à l'autre. Et le record absolu, récemment établi par Jeanne Calment, comme vous savez, décédée en 1997 à un peu plus de 122 ans, n'est effectivement qu'un record. C'est-à-dire un score que ne pourra jamais atteindre qu'un tout petit nombre d'individus. Et c'est en suivant ce type de raisonnement que des biologistes comme Jam Fries aux États-Unis ou des démographes comme Geo Chansky pensent qu'il est quasiment impossible que l'espérance de vie dépasse jamais 85 ans. Et c'est bien sur la base de cette hypothèse, d'ailleurs, que sont formulées les perspectives actuelles des Nations Unies. Il est pourtant une autre théorie selon laquelle la longévité humaine serait elle-même modifiable. D'abord, nous n'avons aucune preuve qu'elle ne s'est jamais accrue dans le passé. Certes, sans aller chercher jusqu'à Mathusalem, les cas de longévité extrême rapportés par l'histoire ne sont pas rares, mais il manque singulièrement de preuves. Aucune preuve n'a jamais été apportée qu'un homme ou une femme ait, avant Jeanne Calment, atteint l'âge de 120 ans. En revanche, on sait combien, dans presque toutes les sociétés, la tentation est forte de grossir l'âge d'un grand vieillard. Au contraire, plusieurs indices nous laissent penser que la longévité humaine a peut-être augmenté au cours des dernières décennies. D'une part, depuis une quarantaine d'années dans les pays les plus avancés, d'une année sur l'autre, l'âge au décès le plus élevé augmente. D'autre part, depuis les années 70, la mortalité aux grands âges, au-dessus de 75 ans, qui n'évoluait guère auparavant, s'est brusquement mise à diminuer. Mieux encore, certaines modélisations récentes de la courbe de mortalité aux très grands âges indiquent également que quelque chose d'important est en train de se passer dans la survie, dans le domaine de la survie des grands vieillards. Enfin, certains biologistes, comme Roy Walford, par exemple, pensent, depuis pas mal de temps d'ailleurs, que nous sommes bel et bien sur le point de retarder efficacement le processus de vieillissement de l'organisme humain. On peut alors tout imaginer. N'allons pas quand même jusqu'à l'extrême auquel pourraient nous pousser André Klarsfeld et Frédéric Reva en suggérant dans le livre qu'ils viennent de publier sur la biologie de la mort que si l'immortalité n'existe pas, dans notre espèce, mais aussi dans d'autres, ce n'est nullement par nécessité biologique, comme on l'a toujours cru jusqu'ici, mais seulement parce qu'étant biologiquement elle-même non nécessaire, elle n'a pas été sélectionnée par l'évolution. Admettons plus modestement une proposition comme celle de Roy Walford, selon laquelle il ne serait pas impossible d'atteindre au XXIe siècle des espérances de vie de l'ordre de 150 ans. Hein ? C'est beaucoup plus modeste que l'immortalité. Mais tout de même, quel effet pour nos populations ? Ben, remplaçons tout simplement, dans les scénarios précédents, le postulat d'un plafond à 85 ans d'espérance de vie par un plafond à 150 ans. Cela change évidemment beaucoup les résultats, tant du côté des effectifs que de la structure. Dans le cas d'une fécondité retardée, mais maintenue à 2,1 enfants par femme, cette formidable augmentation de l'espérance de vie suffirait à contrecarrer la réduction brutale de l'effectif de population due au report des maternités et permettrait à la population de retrouver à peu de choses près à terme son effectif initial. De même, dans l'hypothèse du passage à l'enfant unique, elle permettrait, sans bien sûr remettre en cause la décroissance inéluctable de la population, elle permettrait néanmoins de retarder cette chute de près de 100 ans, ce qui, tout de même, permettrait de prendre le temps de réfléchir à la suite. Mais tout cela au prix d'une radicalisation invraisemblable du vieillissement démographique. Dans le premier cas, fécondité maintenue mais retardée, bien que le remplacement des générations soit assuré, la proportion des moins de 20 ans tomberait à 15% au lieu des 24 précédents. Tandis que celle des plus de 60 ans passerait à 60% au lieu des 30% précédents. Mais cela n'est rien à côté du modèle à un seul enfant par femme. Il n'y aurait plus alors que 2% de jeunes, 7% d'adultes entre 20 et 60 ans et 91% de plus de 60 ans. Mais plus fort encore, 74% de plus de 100 ans. Bien entendu, les mots « jeune », « adulte », « vieux » ne pourraient absolument plus s'appliquer aux mêmes catégories d'âge qu'aujourd'hui. Mais tout de même, quand on sait le mal que nous avons à nous faire à l'idée de vivre demain, c'est-à-dire en 2050, dans une société avec 30%, voire 40% de personnes de plus de 60 ans, comment imaginer un monde où les trois quarts seraient centenaires ? Certes, ces scénarios ne sont ni plus ni moins probables que l'hypothèse de stabilisation générale et définitive qu'était censée comporter la théorie de la transition démographique. Je suis même sûr, rassurez-vous, qu'ils ne se réaliseront pas. Ils sont cependant là pour nous rappeler qu'après la formidable tempête déchaînée par la folle croissance des dernières décennies, nous devons absolument éviter de nous laisser endormir par la perspective rassurante de la stabilisation en cours de la population mondiale, et ceci pour trois raisons. La première, il est impératif, sous peine de fractures économiques, sociales, politiques, graves au niveau planétaire, de pourvoir d'urgence au développement des régions les plus pauvres, qui sont aussi celles où devront prendre place dans les décennies à venir 3,5 milliards d'hommes et de femmes supplémentaires, c'est-à-dire autant qu'il y en avait au total sur toute la planète en 1970. Deuxièmement, il est tout aussi urgent, et pas seulement pour les pays du Nord, de se préoccuper sérieusement de la place des différentes catégories d'âge dans les sociétés où, quoi qu'il arrive, la composition par âge se trouvera sous peu radicalement modifiée. Et troisièmement, il est bien clair enfin que si, par hasard, nous souhaitions que notre avenir démographique ressemble le plus possible à une population stationnaire, modèle qui effectivement fait disparaître tous les problèmes liés à l'évolution du nombre et de la structure, ce ne pourrait être qu'au prix de politiques volontaristes beaucoup plus audacieuses que toutes celles qui ont jamais été imaginées jusqu'ici.
Merci Jacques Vallin pour ses perspectives, particulièrement, je pense, pour tout le monde et on conviendra, stimulante, qui montre ce voyage un peu dans le temps et dans l'espace, qui montre que si la démographie veut être une science exacte, ces projections laissent encore beaucoup de place à l'indétermination. Et pour le rappel au développement aussi, à la nécessité du développement et des politiques avec lesquelles Jacques Vallin a terminé. Alors, il nous reste, nous avons 20 minutes pour les questions. Je vais vous demander donc de vous manifester. Et je vais vous demander, en vous demandant votre indulgence, parce que comme ici, en particulier sur les ailes, parce que comme ici, nous avons les projecteurs dans les yeux, on a du mal, donc insistez, montrez-vous si vous avez des questions à poser, parce que vous nous voyez bien, mais nous vous voyons mal. Alors, j'ai vu une main... Il y en a beaucoup, et alors il y a un micro, je pense.
Oui. Bonsoir.
Est-ce que vous avez le micro ?
Oui. En fait, j'ai deux choses à dire. J'espère que la proposition Tobin pourra passer, enfin, pourra être adoptée. Parce que la proposition Tobin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà.
La taxe sur les mouvements de capitaux.
C'est ça, de 0,1%, qui représenterait en fait 200 milliards de dollars. Voilà. D'autre part, il y a quelque temps, j'ai vu des informations concernant en fait l'enzyme de jouvence, la télomérase, qui en fait permettrait de, d'augmenter la durée de vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je trouve ça un petit peu dramatique. C'est en fait... voilà.
Alors, bah, est-ce qu'on prend plusieurs... Ah oui, on répond coup par coup ? Oui, oui, je veux bien. En ce qui concerne... Bah, vous avez posé deux questions très différentes l'une de l'autre. Hein. Alors, en ce qui concerne la taxation des mouvements de capitaux... Pourquoi pas, c'est une recette comme une autre. Hein. Mais vous savez, il y a déjà beaucoup de prélèvements fiscaux. Le problème est de savoir ce qu'on fait avec l'argent qu'on prélève. Et c'est beaucoup plus dur que d'instaurer des nouvelles taxes. Et je crois que, quelles que soient les taxes qu'on instaure, ce qu'il faudrait, c'est non pas d'ailleurs, non pas en soi organiser des mouvements de capitaux vers les pays pauvres, c'est pas vraiment pas tout à fait ça le propos, c'est organiser l'investissement productif dans les pays pauvres. Et comme je disais tout à l'heure, la question est difficile parce qu'il faut que ce soit aussi d'une manière équilibrée du point de vue de l'environnement et de l'écologie. Mais ce qu'il faut, c'est organiser l'investissement productif dans les pays pauvres, puisque c'est là que vont arriver les 3,5 milliards d'hommes et de femmes supplémentaires des prochaines décennies. Et déjà, ces pays arrivent que tout juste à survivre. Donc, quelle que soit la taxe, moi je dirais, peu importe, évidemment, si vous me dites qu'avec cette taxe, on va pouvoir drainer sans douleur pour personne beaucoup plus d'argent, alors tant mieux, faisons-la. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, ça veut dire, des fois, à chaque fois qu'on fait une taxe, on fait de la douleur pour quelqu'un. Bon, le problème, c'est de savoir ce qu'on fait avec l'argent collecté. En ce qui concerne la fontaine de jouvence, vous l'appelez comme ça, moi, je ne crois pas qu'il y a de recette magique. Hein, je ne pense pas. À un moment, on avait pensé, par exemple, qu'avec l'interféron, on avait trouvé la solution magique pour arrêter le vieillissement cellulaire et donc prolonger la vie humaine. Je pense que ça va être plutôt l'accumulation d'un certain nombre de choses qui sont en grande partie sans doute du domaine de la biologie, du domaine de la médecine, mais probablement aussi du domaine des comportements. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une médecine biologie de pointe, il faut aussi savoir comment les gens évoluent par rapport à leur santé dans leur comportement. Et ça, dans toute l'histoire de l'amélioration de la santé, de l'augmentation de l'espérance de vie, ça a joué un rôle tout aussi important que les découvertes médicales. Alors bien sûr, dans le domaine, quand on touche au vieillissement cellulaire, par exemple, on est d'abord et avant tout dans le domaine de la médecine et de la biologie. Mais après, comment d'éventuelles recettes seront-elles mises à disposition des gens ? Comment ces gens vont les utiliser ?
Oui, vous n'avez pas du tout abordé le côté moral, religieux aussi, avec lequel on aborde la fécondité. Tous les peuples, je pense aux techniques d'endogamie des peuples tibétains qui, pour limiter les naissances, une femme épouse un homme et puis ses frères. Dans des pays d'Afrique, c'est la polygamie qui fait que là, les pays sont aussi pauvres, mais finalement, ce système de polygamie engendre beaucoup d'enfants qu'on a du mal à nourrir. Quelquefois, c'est un côté politique qui intervient, comme en Chine, où de façon autoritaire, on n'a droit qu'à un enfant en ville, deux à la campagne, trois si c'est deux filles, parce qu'il n'y a que le garçon qui peut hériter du petit lopin de terre. Est-ce que vous pouvez parler de ce côté culturel des notions de fécondité?
Oui, bien sûr, les aspects culturels ont beaucoup d'importance dans le domaine de la fécondité. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'une manière assez globale, mais évidemment, ça se traduit de manière très différente d'une société à l'autre. Hein. Mais c'est vrai qu'à la base, la fécondité, c'est une organisation sociale autour d'un certain nombre d'idées, de concepts, de morale, de religion éventuellement, quand la religion s'en mêle, et qui font que les gens pensent ceci ou cela de la procréation. Et pour changer de modèle de fécondité, il faut que les couples, hein, individuellement, se réapproprient le pouvoir en matière de procréation. Alors ça, c'est une étape qui est assez longue à franchir. Dans des sociétés, on a été habitué depuis des millénaires à s'organiser pour maximiser, pas maximiser d'ailleurs, pour optimiser, disons, la fécondité à un niveau assez haut. Mais bon, vous me parlez de la polygamie ou de la religion en particulier. Moi, je vous dirais, c'est pas vraiment ça qui compte. La polygamie, par exemple, personne n'a réussi à démontrer que ça faisait un effet de forte fécondité ou de faible fécondité. Les questions restent très discutées. Mais en gros, comme on rapporte la fécondité aux femmes, hein, puisque c'est tout de même elles qui font les enfants, hein, c'est elles qui les portent, bon, c'est elles qui assument la tâche la plus lourde dans la procréation. Et il faut bien passer par les femmes pour faire ça. Donc, quand on rapporte la fécondité aux femmes, ben, peu importe le nombre de maris, je veux dire, ou le nombre de femmes par mari. De toute façon, une femme, dans le meilleur des cas, dans une société traditionnelle, fera en moyenne 6, 7, 8 enfants. Hein. Donc, que ce soit une société polygame ou une société monogame, le résultat ne sera pas différent. La religion, ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça dépend à quel stade en sont les populations par rapport au droit qu'elles donnent à la religion de pénétrer dans leur zone de décision intime. Hein. Je pense que dans les sociétés traditionnelles anciennes, la religion pouvait avoir une prise forte. Dans les sociétés actuelles, c'est beaucoup moins le cas. Et même en France, au XVIIIe siècle, alors que la religion catholique était très dominante et n'était pas du tout favorable à la contraception, eh bien, les couples français se sont mis à utiliser la contraception envers et contre tout. De même, l'Algérie des années 80-90, surtout les années 80, c'est le déclenchement de la baisse rapide de la fécondité en Algérie, à une époque où le fils, l'islamisme et tout l'intégrisme religieux avaient le vent en poupe. Hein. Vous voyez, il n'y a pas forcément une corrélation nécessaire entre ce que disent les religions et ce que font les couples. Ça dépend de l'état de la société.
Vous pouvez demander... Il y a deux questions en bas. Là. Peut-être on va changer un tout petit peu la règle du jeu, parce que comme le temps nous est compté et qu'il y a beaucoup de questions, on va écouter plusieurs questions et Jacques Vallin va répondre. Alors, s'il vous plaît, oui, mais il y a quelqu'un qui a demandé là-haut, si j'ai bien compris.
Attendez, monsieur, j'étais avant, excusez-moi. Oui. Voilà, je fais partie de la coordination citoyenne contre l'OMC. Nous sommes battus depuis 2 ans, 3 ans contre l'AMI et maintenant depuis un an contre l'OMC. J'ai une question précise à vous poser. La solution à venir ne serait-elle pas pour l'intensification du PNUD, du rôle du PNUD, pour les pays du tiers-monde, c'est-à-dire en remplacement du rôle néfaste de la Banque mondiale et du FMI, qui désagrège totalement l'économie frugale de ces pays? Voilà. Je vous remercie bien.
Merci. Donc, donner l'avantage au PNUD par rapport au FMI. Monsieur, ici, en face, et puis à vous, monsieur.
Well, je passe sur pour un non-initié que je suis. la moyenne d'enfants par femme, 1,5 ou 1,5, j'avoue que je vois un ou deux, trois enfants par femme, mais demi ou 75e enfant, ça me pose problème. Et je regrette que les démographes n'aient pas fait travailler un peu leurs neurones pour trouver un moyen plus explicite d'expliquer demi ou 75e enfant. Ça me pose problème. Alors, pour revenir à des choses plus sérieuses, vous avez évoqué tout à l'heure les fantasmes ou les phobies d'explosion démographique, mais aussi cette tragédie de la traite négrière, 5 siècles, qui a vidé ou dévitalisé définitivement le continent africain. Et aujourd'hui, dans la phobie, j'ai l'impression qu'on s'inquiète davantage de l'explosion démographique en Afrique, peut-être parce que géographiquement, c'est proche de ceux qui s'en inquiètent. Je rappelle que la densité en Afrique, c'est 24-26 habitants au kilomètre carré contre 333 en Chine et 297 en Inde. Alors, à votre avis, quelle est la raison? Est-ce que c'est pour raison de géographie ou c'est parce que c'est l'Afrique? Dernière question, est-ce que la démographie est importante pour le développement? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Merci.
C'est une question simple que vous avez posée. Monsieur ici.
Vous avez parlé des grossesses tardives, mais simplement leur retentissement quantitatif. Mais les médecins savent que les grossesses tardives, assez souvent, en tout cas pour, par exemple, le mongolisme, amène une augmentation du mongolisme terrible. Donc, en dehors du fait que la population risque de vieillir beaucoup, elle risque de diminuer en qualité. Et ça, est-ce que les démographes y pensent?
Oui. Vous m'entendez?
Je voulais, à propos, vous parler de capitaux, par exemple, pour améliorer. Bon, on hésite toujours à donner de l'argent aux voisins, n'est-ce pas? La solidarité, c'est quand même difficile. Alors, une autre chose est soulevée par l'ONU. L'ONU a décidé qu'il y a des pays où on ne travaille plus, les pays développés notamment, et puis il y a d'autres pays où ils souhaitent exporter leur main-d'œuvre et leurs bras. Alors, il y a tout un plan de l'ONU pour savoir comment on fera ces émigrations et ces transplantations de population. Notamment, il y en a 700 000 prévus dans ces 5 prochaines années, je crois, en Europe. Je ne sais pas si on ne travaille plus en Europe, mais enfin, c'est le plan de l'ONU. Alors, je voudrais, monsieur, s'il vous plaît, si vous avez des indications sur ce fameux plan.
Le plan de l'ONU. Peut-être qu'on va pour l'instant faire une pause parce que ça fait quand même pas mal de questions. Et donc, je vais demander à Jacques Vallin de répondre déjà à ce bouquet-là.
Bon, alors commençons par le plus facile. Pourquoi est-ce qu'on coupe les enfants en morceaux? Hein? Non, je rebondis sur votre plaisanterie, parce que c'est une plaisanterie, bien sûr. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire des moyennes sans donner quelques chiffres après la virgule quand les unités sont devenues peu nombreuses. Hein. Mais il y a quelque chose à expliquer derrière ça, c'est pourquoi ce 2,1 et non pas 2, par exemple. Mais ça, c'est très simple. C'est parce que pour faire un enfant, il faut être deux. Comme on rapporte la fécondité aux femmes, eh bien, ça fait 2 pour 1. Hein, donc le taux de fécondité le total doit être de 2. Mais comme il naît chaque année, il y a un peu plus de garçons que de filles à la naissance. Le rapport, c'est 2,05. Hein. Donc pour qu'une femme fasse le nécessaire pour reproduire la génération suivante, il faut qu'elle fasse 2,05 enfants et non pas 2. Et puis, bien sûr, j'ai dit que la mortalité infantile était vraiment tombée très bas, c'est vrai dans les pays où on est bien avancé, mais il reste quand même un peu de mortalité entre la naissance et l'âge de la procréation, et c'est pourquoi 2,1 enfant par femme, c'est le seuil fatidique qui permet le strict remplacement des générations. Alors, citoyens contre l'OMC, je crois qu'il y a Non, c'est ça. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Le PNUD, oui, très bien, pourquoi pas le PNUD? Pourquoi pas le FMI non plus? Après tout, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font? Et moi, le grand problème qui me tracasse, c'est qu'il n'y a pas, à l'échelle mondiale, une véritable organisation démocratique d'un certain pouvoir économique et politique à l'échelle mondiale. Il faudrait qu'à l'échelle mondiale, on puisse conduire des politiques économiques et sociales régionales, à l'échelle du monde, harmonieuses. Et ça, qui peut le faire? Le FMI, ben, il fait ce qu'il peut. C'est une banque relativement généreuse, d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. C'est, quelquefois, le FMI prête à des taux d'intérêt très bas, sous certaines conditions, mais ça n'est qu'une banque. Le PNUD, oui, mais quelles sont les ressources du PNUD? Totalement insuffisantes pour faire ce qu'on a à faire. Et je doute même que s'il avait les ressources suffisantes, il puisse mener correctement les politiques adéquates. Parce que le PNUD serait sous la coupe... On sait comment fonctionnent les Nations Unies, hein? Pourquoi on intervient en Kosovo? Pourquoi on n'intervient pas en Tchétchénie? On sait comment ça fonctionne, les Nations Unies. Je crois que là, sur ce point-là, il y a vraiment beaucoup à faire. Et moi, je suis relativement pessimiste parce qu'on ne s'organise pas pour gérer notre planète comme il faudrait dans les décennies qui viennent. Attendez, je voudrais aussi répondre aux autres.
Une seconde, il faut que tout le monde puisse parler. Donc, vous avez posé une question.
Alors, pourquoi l'Afrique, pourquoi s'occupe-t-on de l'Afrique quand on parle de démographie plus que des autres continents aujourd'hui? Il ne me semble pas l'avoir fait, d'ailleurs. Il me semble que j'ai parlé de l'Afrique au moment où il faut parler de l'Afrique. C'est-à-dire que cette transition démographique, j'ai essayé de l'expliquer, c'est le déroulement dans l'histoire d'un même processus, mais qui prend effet à des stades différents dans les différentes régions du monde. Et il se fait que l'Afrique est arrivée parmi les derniers au seuil de cette transition. On pourrait discuter longuement de savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et de ce fait-là, l'Afrique est aujourd'hui à la phase paroxystique de la transition démographique, c'est-à-dire le moment où la croissance démographique est la plus forte. La Chine, l'Inde, l'Amérique latine sont passées par là un peu plus tôt, comme je le disais tout à l'heure. Et elles ont, de ce fait-là, d'ailleurs, bénéficié de circonstances plus favorables, parce que du temps des Trente Glorieuses, le système économique mondial n'était pas meilleur, mais il était plus fluide, plus riche, et donc ces pays ont pu s'en sortir peut-être moins difficilement. Mais l'Afrique, aujourd'hui, notamment l'Afrique subsaharienne, est dans les plus grandes difficultés à cause de cette conjonction d'une démographie à son paroxysme, et d'une situation économique mondiale défavorable. Vous m'avez demandé, ben c'est un peu la même chose, hein, est-ce que la démographie a un rapport avec le développement? Je crois que je l'ai assez dit, non? Il faut que je le redise encore. Alors, les grossesses tardives. Oui, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le report de la ménopause doit être horrible dans les oreilles d'un médecin. Je crois que dans l'état actuel des choses, c'est hors de propos. Il y a quelques cas qu'on a cités en Italie, mais ça n'est pas réaliste de penser que ça va se passer demain matin, ça. Mais je l'ai présenté comme quelque chose qui pourrait se produire dans la suite. C'est-à-dire, la suite, c'est quand même dans 50 ans, dans 100 ans. Et là, je vous assure que... On peut imaginer énormément de choses. Alors, c'est vrai que, déjà dans le cadre actuel de la vie féconde d'une femme, il y a des périodes plus ou moins favorables pour faire des enfants sur le plan eugénique, sur le plan de la santé des enfants. Et notamment, à propos des maladies génétiques, on sait que le risque s'accroît un petit peu avec l'âge, à partir d'un certain âge surtout. Mais tout de même, il ne faut pas exagérer ces choses-là. Ça reste quand même des pourcentages faibles, heureusement. Et on peut très bien, une femme aujourd'hui peut très bien faire un enfant à plus de 40 ans, et de plus en plus le font, sans qu'il soit trisomique. Évidemment, il y a un petit peu plus de risques, et c'est pour ça qu'on surveille plus les grossesses. Mais on a aussi des réponses. Est-ce que j'ai répondu à tout, là?
Je crois que vous avez répondu à tout.
Ça va.
Alors, on va prendre juste les deux questions ici, parce que là, on peut, le temps, malheureusement,
nous s'arrêter.
Donc, madame et monsieur, là, après, et Jacques Vallin répondra en quelques mots. Pardon de, pour tous ceux qui n'auront pas pu poser de questions et a fortiori pas obtenir de réponse, mais je crois que de l'autre côté, vous avez envie aussi que Jacques Vallin réponde.
Oui. Oui, j'ai trouvé votre exposé très intéressant et j'ai apprécié que vous donniez des scénarios qui donnent en fait des résultats extrêmement différents. Mais vous l'avez bien dit, vous avez laissé de côté des choses qui peuvent encore moduler de façon très importante les résultats que vous avez donnés, à savoir par exemple le sida, dont nous savons qu'il décime des populations entières et justement dans certains pays, que les traitements pour ces maladies ne sont pas les mêmes et les longévités ne seront pas augmentées de la même façon à cause de cela, pour des raisons économiques. De plus, vous avez parlé un petit peu de la pollution qui, si le nombre d'habitants sur Terre augmente de la façon que vous avez dit, donc de façon très importante jusqu'à 2050, va aussi peut-être jouer un rôle important dans les longévités des personnes. Et enfin, vous avez parlé de catastrophes nucléaires. Il est, à mon avis, probable qu'il y ait, étant donné le nombre de centrales sur Terre et le fait que certaines sont entretenues d'une façon douteuse, nous le savons, il est probable qu'il y aura d'autres Tchernobyl. Donc, que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
Bonsoir. La deuxième question, bonsoir. J'ai un problème d'arithmétique. Comment on arrive dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes, comment peut-on satisfaire tout le monde sans instituer la polygamie?
Bon, Jacques Vallin va répondre en quelques instants, et puis je crois que nous serons obligés d'en terminer.
Bon, alors... Je vais commencer par la dernière question parce que c'est la plus amusante et sera facile. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Dans quelle population? À la surface de la Terre, c'est 50-50, hein, à peu près moitié-moitié. Dans pratiquement toutes les populations, il y a un quasi-équilibre au total, hein, entre les femmes et les hommes. Bon. C'est rare qu'il y ait un déséquilibre. Ça existe, par exemple, la population du Koweït à un certain moment, qui était fondée sur une très très forte immigration, était faite de plus d'hommes que de femmes. Mais des cas où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, ça, je ne connais pas. C'est vrai que le ratio entre hommes et femmes change avec l'âge, parce qu'il y a toujours un peu plus de garçons qui naissent que de filles. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un peu plus de garçons à mourir que de filles. Enfin, non, tout le monde meurt, mais les garçons meurent un peu plus vite que les filles. Et donc, à partir d'un certain âge, il y a équilibre. Et il se fait, hein, je ne sais pas qui est-ce qui a décidé ça, mais que l'équilibre se produit à peu près au moment où on est en âge de faire des enfants. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de polygamie pour satisfaire tout le monde. Ça ne veut pas dire que je sois contre la polygamie. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, polygamie? Polygamie ne veut pas dire qu'un homme a plusieurs femmes. Ça, c'est polygynie. Polygamie, ça veut dire qu'un homme a plusieurs femmes ou qu'une femme a plusieurs hommes. Et là, moi, je n'ai rien contre. Alors, en ce qui concerne les questions plus sérieuses, hein, un peu plus dures, le sida, hein, ça, c'est vraiment une question très douloureuse. Et je voudrais vraiment ne choquer personne. Mais je voudrais dire que sur le plan démographique, le sida, quoi qu'on en ait dit au moment où le sida est apparu dans les pays du Nord, on s'est complètement affolé pour les pays du Nord, et on a dit que ça va être une catastrophe. Bien, le sida, dans un pays comme la France, où pourtant on a été touché, la mortalité par sida est en recul. Hein. En revanche, il y a des pays où le sida a pris des proportions absolument effrayantes. Je reviens récemment d'Afrique du Sud, et alors que l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, n'était pas tellement touchée par le sida jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est en ce moment une flambée épouvantable. il y a des pays d'Afrique du centre ou de l'Est qui sont très touchés depuis un peu plus longtemps. Et c'est vrai que pour ces pays, ça pose... Ça a en plus des conséquences douloureuses sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan économique aussi, ça a des conséquences démographiques. Et de fait, les Nations Unies, dans leurs prévisions de population africaine, ont été obligées de réviser leurs perspectives d'évolution de l'espérance de vie. Et les perspectives des Nations Unies prévoient que dans certains pays d'Afrique, l'espérance de vie va diminuer de 15 ans dans les décennies qui viennent, avant, espère-t-on, de remonter et de reprendre un cours normal. Donc, jamais je ne dirais que le sida n'a aucune conséquence démographique, mais il ne faut pas non plus penser que le sida change complètement la donne. C'est un peu, comme je disais tout à l'heure, un avatar absolument affreux, mais c'est un avatar. Ça ne change, ça ne renverse pas le propos de la transition démographique. Alors, la pollution, je dirais plus que la pollution, moi, les équilibres écologiques globaux de la planète. Alors ceux-là, c'est vrai qu'ils sont mis gravement en cause par l'évolution même que l'on souhaite pour le futur. C'est-à-dire qu'on souhaite, bien sûr, que pour ces 10 milliards d'hommes, mettons, il y aura sur la planète en 2050 ou 2075 ou 2100, on souhaite que chaque homme, chaque femme puisse avoir le même niveau de vie que celui qu'on connaît plus ou moins dans les pays riches. Et c'est vrai que si on faisait ça avec les mêmes moyens qu'on a employés dans les pays riches, eh bien, on irait sans doute à la catastrophe parce qu'on détruirait quelques équilibres fondamentaux qui nous permettent de vivre sur la Terre. Donc, il faut absolument, je pense que quand même petit à petit on y vient, mais là encore, on manque d'une autorité mondiale qui soit capable de régir dans certains domaines que déjà on connaît, mais tout de même, il faut qu'on soit capable dans le futur de gérer ça correctement. Catastrophe nucléaire, Tchernobyl, là, écoutez, je ne voudrais pas non plus choquer personne. Tchernobyl, c'est une énorme catastrophe, c'est vrai, mais sur le plan démographique, je dois dire qu'on ne voit rien. Je suis en train de travailler sur l'Ukraine, justement. Tchernobyl se trouve en Ukraine. L'Ukraine a subi alors des catastrophes effroyables de surmortalité dans le passé. Pendant la famine des années 30, l'espérance de vie en Ukraine est tombée à 9 ans, pour dire. Bon. Mais traitant de ces crises de mortalité en Ukraine, on a voulu aussi voir quel était l'effet de Tchernobyl. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que s'il y a un effet, il est extrêmement diffus et retardé. Alors, il y a eu un effet local, bien sûr, pour tous les gens qui étaient contaminés immédiatement, mais ça ne prend pas des proportions démographiques comme on pourrait croire quelquefois. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est dangereux. Hein? Tchernobyl, il faut éviter absolument, à tout prix. Mais je voudrais qu'on évite encore plus des guerres comme celle de Tchétchénie.